11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Il a bien reçu sa carte électorale pour aller voter dimanche, plus que 10 tampons pour avoir une pizza gratuite, le fidèle Ben H.
On lâche rien, bonjour à bonjour tout le monde.
Il ne fera pas partie des 23 sélectionnés pour jouer en équipe de France. Le seul moment où il ramène la coupe à la maison, c'est quand il revient de chez le coiffeur. Le bleu de l'émission, ouais, Laurent Barra.
Salut, bonjour à tous et à toutes.
Elle ne comprend pas pourquoi il y a des animaux sauvages dans les cirques. Pour elle, c'est aussi anormal que d'enfermer un diabétique dans une boutique de macarons. Christine Leroux.
Bonjour, bonjour à tous.
Tous les ans, lui aussi, il remporte la Palme d'Or au concours de plongée organisé dans le camping des Maracas jaunes, la star des étoiles de mer, Jean-Philippe Vizini.
Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour tout le monde.
Elle a toujours voulu être prélevée à la source, surtout quand il s'agit de kilos en trop, celle qui n'a rien à déclarer, la délicieuse Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H nous expliquera pourquoi il n'a pas trop le moral. À partir de 11h30, nous recevons l'imitatrice et humoriste Anaïs Petit pour son One Woman Show Addiction qui sera le 23 mai au théâtre de 10h à Paris. Laurent Barra nous parlera justement des addictions. Et à partir de 11h50, l'écrivain Marc Lévy sera notre invité pour son nouveau livre Ghost in Love, un roman paru la semaine dernière aux éditions Robert Laffont. Jean-Philippe Bizine nous racontera sa séance de spiritisme qu'il a essayé de faire pour rentrer en contact lui aussi avec des fantômes. Et Christine Bérouf fera une interview 50 nuances de Marc Lévy à notre invité.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Hier, il y a eu un débat sur LCI avec 14 candidats pour les européennes. Ouais. Est-ce que vous avez regardé? Ça vous a intéressé? Une idée pour aider les Français à s'intéresser aux européennes, Jean-Philippe?
Ah ben oui, moi je m'intéresse beaucoup aux européennes. Mais pas seulement, j'aime aussi les Guadeloupéennes, les Martiniquaises, les Chinoises, les Polynésiennes.
Non, Jean-Philippe, on parle pas des femmes, on parle des élections.
Ah bah ça m'intéresse pas du tout.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Hier avait lieu sur LCI le débat des têtes de liste, un moment fascinant où 14 personnes qui parlent la même langue ne se comprennent pas. Comment voulez-vous qu'ils se comprennent avec 27 autres pays ?
Hier avait lieu sur LCI le débat des têtes de liste. 14 personnes qui s'engueulent, ça m'a ému. Moi, ça m'a rappelé Noël dans ma famille. Sauf que là, personne ne se fait des cadeaux.
Hier, gros bouchon autour de Paris où les taxis, les auto-écoles ainsi que les ambulanciers ont manifesté contre la loi mobilité et la réforme du permis de conduire. Voilà, petite précision, faut arrêter d'appeler ça des opérations escargots. Parce que maintenant, à Paris, les escargots, ils vont plus vite que les voitures.
François Hollande a appelé à voter pour la liste socialiste aux européennes. Réaction du Parti Socialiste. François, tais-toi avec tes conneries, on va finir à moins 3%.
En Bretagne, une femme a été blessée par un lion enfermé dans une cage. Selon la gendarmerie, elle était en état d'ébriété. En même temps, les animaux et l'alcool, en Bretagne, ça va toujours ensemble. À votre avis, comment on fait pour les entendre, le loup, le renard et la belette ?
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben H, oui. Jean-Philippe Vizini, Christine Bérouf et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Jean-Philippe Bizini, Ben H, alors, tout va bien dans votre vie?
Tout va bien.
Ouais.
Bah, oui, pourquoi ça irait pas? Et vous?
Bon.
Ouais, on vous sent pas dans le in-in.
Non, mais moi je me dis que voilà, je suis bien seule.
Ouais. Non.
Moi je voudrais dire à nos auditeurs quand même que ce matin, à la machine à café, vous êtes arrivés en disant ma vie, on dirait une roue qui tourne. Qu'est-ce qui se passe?
Une vie de hamster, quoi.
Dites-moi un compliment.
Mais on n'arrête pas depuis tout à l'heure.
Eh ben, vous êtes ponctuel. Voilà.
Allez, c'est le moment de notre jeu qui s'intitule comment, Ben H ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Après le petit Robert, le dictionnaire Larousse sort aujourd'hui en librairie. Vous devez deviner des personnalités qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire Larousse ces dernières années. Cette semaine, tentez de gagner un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château, en formule petit déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne. L'île de la Lagune est l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées Oriental, un cœur de verdure bordé par la Méditerranée, montagne à l'horizon, soleil chaleureux.
Oui,
bah oui, soleil chaleureux.
Un lieu c'est garanti.
Oui.
S'il pleut, on peut se plaindre.
Un lieu de villégiature qui préserve votre intimité, où chaque endroit est pensé cocooning pour le confort et le plaisir des yeux. Plus d'infos sur www.hotel-île-lagune.com. Et on joue d'abord avec Johanna. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Johanna, vous avez 38 ans, vous êtes prothésiste ongulaire à Roubaix, dans le Nord, c'est-à-dire que vous mettez des faux ongles.
Oui, des faux ongles, des dessins, enfin voilà, la beauté des mains.
Johanna, alors vous êtes célibataire depuis 8 mois.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'aimait pas le tiramisu.
Comme il est parti avec une autre?
Le salaud.
Allez, on en a pour un quart d'heure là. Vas-y, c'est parti. Le questionnaire commence.
J'ai pas trop envie d'en parler.
Oh, pardon.
Bah
pardon.
Non, bah non.
Pas grave.
Bah non. Oui.
Ah, il est parti avec une autre, on n'en parle plus. Et puis merci, elle est en
bah oui,
il vous méritez pas. Il vous mérite.
Maintenant, j'en cherche un autre.
Ah, oui. Voilà.
Et comment, c'est quoi votre style?
De taille moyenne, 1m75 à 1m80.
Pour l'instant, c'est bon pour Laurent. Continuez.
Brun, châtain clair.
Ténébreux,
c'est
un peu ténébreux
pour Laurent.
Ténébreux.
Donc il me reste Laurent, Jean-Finan.
Non, c'est foutu.
Moi, je suis avec ma... Mais Laurent est pas mal.
Laurent.
Est-ce que si financièrement ça va pas du tout, est-ce que c'est bon pour vous? C'est pour savoir si Laurent.
Non.
Là, Laurent vient de nous quitter.
Non, mais en plus, Johanna, faites attention parce que Laurent, depuis hier, il est sur Eris Mittener, donc Miss Univers quand même.
Ah
hein.
Oui.
Oui, mais Johanna, si je peux me permettre, je fréquente Laurent depuis quelques mois dans un point de vue professionnel. Je pense que si j'avais été célibataire, je l'aurais dragué.
Oh, ça me touche beaucoup.
Ouais.
Ça,
c'est... Donc voilà, vous avez l'estampille, mais... Christine Béroux. Vous pouvez y aller normalement. Parce qu'il est, il est très cultivé, il est très délicat. Il est...
C'est la première fois qu'on est gentil avec moi dans cette émission.
Non, mais c'est vrai. Et j'ai beaucoup apprécié parce que ce week-end, il est le seul de l'équipe à m'avoir envoyé un mail pour me demander comment j'allais parce que la semaine dernière, j'étais un petit peu fatiguée.
Exactement.
Il est le seul. Alors, vous parlez.
Je me mets à la place de ton mec qui écoute l'émission, qui doit être comme un dingue à la maison.
Il commence à avoir l'habitude. Mais
un mail, ça fait professionnel.
Non, c'était. C'était sur Instagram.
Oui, c'était sur Instagram.
C'était sur Instagram.
En tout bien, tout honneur.
Et t'étais tout nu sur la photo. C'est bizarre. Hein, quand même.
Oui, et je peux vous dire qu'il est très bien équipé. Non, je sais pas.
Mais il y a des hommes qui vous appellent pour des prothèses angulaires.
J'en ai déjà eu, oui, pour des manicures, beauté des mains, beauté des pieds, oui.
Ah.
Moi, j'aime bien faire tout ce qui est peeling, masque de beauté. Je me suis acheté des trucs là. Je peux pas dire la marque, mais c'était un masque facial au café. Putain, c'est super ça. Vous connaissez?
On en apprend tous les jours sur ce garçon. Hein.
Et le soir, avant de m'endormir, je fais un masque, vous savez, ces petites lingettes glacées là, qui épousent la forme de ta gueule. En fait,
moi, j'essaie de vendre un peu ton cas, ton célibat et tout ça. Et puis toi,
Non, mais au contraire, j'ai 40 ans, donc je fais attention.
D'accord.
Mais Jean-Philippe, vous ne faites pas de masque de
beauté.
Mais
non, lui, il fait des masques à la merguez, lui, attends.
des crèmes de nuit, des crèmes de jour. Non, moi, c'est, tout est naturel chez moi. C'est,
Oui.
Et Benach, pas de masque non plus. Hein.
Bah, ça se serait si je faisais des masques. Hein.
Sinon, il faut changer de marque.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un moment.
Service consommateur.
Moi, j'ai lâché l'affaire à ce niveau-là. Il n'y a plus de.
Vous avez des petits problèmes dermatologiques, faut le dire.
Oui.
Vous avez fait le centre anti-poison carrément pour voir ce que vous pouvez
faire. Oh, j'ai une puberté un petit peu à retardement, voilà.
Vous savez que la peau reflète l'intérieur de l'âme.
Ah bah, une bien jolie. J'ai une âme un peu dégueulasse, moi, on va pas se mentir.
Ah bon, on va lui acheter une PlayStation alors.
Johanna, vous prenez quelle liste, la 1 ou la 2?
La 1,
et vous jouez avec qui?
Avec Jean-Philippe.
Oh. Super. Allez, on va faire de notre
mieux. C'est des personnalités donc, qui sont rentrées dans le Larousse cette année ou les années précédentes. Vous êtes prête?
Je suis prête.
Okay. Allez, on y va.
C'est un footballeur portugais, beau gosse.
Il joue Ronaldo.
Ok. C'est un philosophe français, la chemise blanche, toujours un peu. Il est.
BHL. Ah,
ouais. C'est un basketteur un basketteur français qui joue aux États-Unis.
Tony Parker.
Ok. C'est celle qui chante la chanson sur la drôle de vie. Ma drôle de vie, c'est une chanteuse.
Je passe.
Ok, c'est la ministre des Sports.
Je passe.
Ok, c'est une ancienne meneuse de revue. Maintenant, elle est présidente du SIDAction. Une dame avec des cheveux blancs courts.
Lynn Renault.
Ok. Elle jouait dans Manon des Sources. L'actrice dans Manon des Sources.
Emmanuel
Béat. Ouais.
Ah, bien,
c'est pas mal.
5 bonnes réponses, vous avez bugué, mais Véronique Sanson, c'est pas que ma drôle
mais
de
oui.
vie. C'est une des chanteuses qui s'accompagne au piano.
Oui.
Elle est sortie avec Michel Berger. Enfin, tu vois, un peu de.
Voilà.
Je pensais pas me faire engueuler, moi.
Non, mais un peu de culture,
mais
quoi.
Mais enfin. Ma drôle de vie,
bah, toi, tu dis ma drôle de vie, mais tu te tais.
Oui, bah, je laisse réfléchir.
Bon, vous n'avez pas trouvé Véronique Sanson et Laura Flessel, mais.
J'ai un trou.
Oui, Laura Flessel. Alors, l'escrimeuse Laura Flessel. 5 bonnes réponses, c'est pas mal du tout, Johanna. Franchement,
c'est pas mal.
On va, voir comment se débrouille Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Le banquier. Bonjour.
Ouais, je suis stressé. J'ai
c'est vrai.
Bonjour Anne. Bonjour l'équipe. Ben, 5 points, c'est beaucoup déjà.
Oui, ça c'est vrai. Ça je vous le cache pas. Vous êtes aide-soignant dans un service hôpital à domicile.
Oui, c'est ça. Une HAD.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va s'occuper des patients chez eux.
D'accord. Mais c'est pas trop difficile.
Faut avoir la vocation. Ça, c'est un métier qui est dur, mais qui on reçoit beaucoup des patients. C'est très. Ça fait 22 ans que je fais ça et
c'est valorisant.
C'est l'échange qui vous apporte beaucoup, quoi. C'est ça.
Les patients vous apportent beaucoup.
Mais
vous faites les choses naturellement, vous faites les soins naturellement et vous avez l'impression de leur faire beaucoup de bien. Et ils vous le font comprendre.
Mais ça doit être quand même dur à chaque fois d'aller arriver chez les gens, d'être pimpant, d'avoir de l'énergie, d'être.
Il y a des moments pas faciles. Et puis voilà quoi.
Vous êtes au bord de la route là, qu'est-ce qui se passe là?
Ah non, là je suis dehors, je viens de rendre mon véhicule de fonction, parce que là je suis en arrêt maladie. Parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées.
Ouais.
Et ça se passait bien avec les patients, mais moins bien avec mon cadre. Donc là je suis en burn-out.
Oh.
Voilà.
Bon, ça va repartir.
Mais oui. Pardon ? Oui, ça va repartir. Ah, mais bon, de toute façon, principal, c'est que ça se passe bien avec les patients et leurs familles.
Oui, mais faut peut-être que vous arrêtiez. Si cette personne, ça se passe pas bien, faut peut-être changer de cadre, pour travailler dans un autre.
Écoutez, je vais m'occuper de moi. On verra bien comment ça tourne, mais. En attendant, c'est vous mon meilleur antidépresseur.
Oh, mais oui, mais on a envie de vous faire gagner, alors.
Je le dis sans flagornerie, parce que franchement, depuis que je suis en arrêt, tous les jours, j'attends 11h. Quand il fait beau, je jardine un petit peu pour m'aérer la tête. Et vraiment, vous me faites un bien fou.
Merci
beaucoup. En tout cas, la technique pour gagner sans jouer, c'est impeccable. Jusque-là, c'est un sans faute.
Ah, c'est top, hein.
Là, on vous dit, bravo, vraiment. Eh ben, bravo à vous. Qu'est-ce que vous allez faire de ce week-end pour eux? Dis donc, ça, on ne l'avait jamais fait. Hein.
Vous jouez avec qui, Stéphane?
Je jouerai bien avec Laurent.
Allez.
Attention, top chrono.
Allez, le meilleur joueur du monde, argentin, il joue à Barcelone.
Ronaldo.
Oh non. L'ex-femme de Tom Cruise, Rousse.
L'Australienne.
Oui. Bon, d'accord, ok. L'acteur français oscarisé Black pour son rôle dans Intouchable.
Omar Sy.
Oui, voilà. L'actrice française qui a joué dans La Boom.
Sylvie Marceau.
Ouais, ok. Un acteur belge qui a joué C'est arrivé près de chez vous. Belge. Ok. Une tenniswoman black très forte, costaud, muscle. Je pense que même
Laurent. Non, j'ai
bien perdu.
Non, mais Laurent.
Là, même Bénin, j'aurais pas pu
mais
faire.
Mais Laurent, Omar Sy n'a jamais eu d'Oscar.
Oui, il n'a pas eu d'Oscar, Omar Sy.
César, oui, mais de toute façon, il a trouvé.
Un pauvre monsieur qui allait déjà si mal, Laurent.
Oui.
S'il avait pris Bénin.
Est-ce que s'il avait pris Bénin, il aurait trouvé Lionel Messi.
Vous seriez sur l'île de la Lagune, alors.
Lionel Messi.
Ça aurait pas changé la liste.
J'aurais été sur d'autres prénoms. Lionel Messi.
Lionel Messi, bon, Nicole Kidman.
Mais Sylvie Marceau, bravo, par contre.
Ouais.
Sylvie Marceau,
la
sublime Sylvie Marceau.
Vous connaissez son film, mais Sylvie, sa sœur, est moins connue.
Elle
a plein de talents.
Plus confidentielle, un peu plus underground.
Et Benoît Poulvorde, vous n'avez pas trouvé non plus.
Roger Poulvorde.
Je trouvais pas les noms.
Johanna, vous avez gagné?
Ouais! Merci Anne, merci Jean-Philippe.
Merci à vous Johanna.
Johanna, vous avez gagné un séjour pour 2 personnes de 2 nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien Relais Château en formule petit déjeuner avec 2 soins d'hydrothérapie par personne. L'île de la Lagune, l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées-Orientales. Plus d'infos sur www.hotel-île-lagune.com. lagune.com.
Vous vous rendez compte, Anne, pour la première fois, je vais prendre soin de moi alors que je prends toujours soin des autres.
Oh, bah oui, vous allez partir avec qui, Johanna ?
Je vais essayer d'attraper un homme.
Allez, d'attraper Laurent. Un homme ?
Ça, c'est pour Laurent,
ça. Je me suis inscrite sur un site de rencontres.
Lequel ?
Non. Celui où Benabou.
Mythique.
Mythique.
Bah oui. Et là, je vais peut-être faire Attractive World aussi.
D'accord. Ah ouais, donc on est vraiment en
célibataire exigeant.
Et puis là, vous mettez que vous avez un week-end en plus pour faire connaissance.
Ah bah oui, vous mettez ça en amorce.
Je vais mettre gagner sur Europe 1. Cherche personne. Homme très beau, très...
Très bien.
Ah oui. En tout cas, merci beaucoup et je vous aime tous très fort.
Bon, c'est gentil, Johanna. Merci beaucoup. Continuez à nous écouter.
Avec grand plaisir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Mérou, Laurent Barra,
oui.
Jean-Philippe Vizigné et Ben H qui nous expliquera pourquoi il est un peu déprimé.
Ouais.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizigné, Ben H, Christine Mérou, Laurent Barra.
Oui.
Alors le CSA a constaté que les programmes du soir étaient diffusés avec de plus en plus de retard par rapport à l'horaire annoncé. Et vous, est-ce que vous êtes souvent en retard ? Et c'est quoi l'excuse que vous donnez en général ?
Moi, quand je suis en retard, je dis toujours que c'est la faute du train, mais on ne me croit pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que j'arrive toujours avec un casque de moto.
Ben H.
Ouais, alors je sais que ça va pas être très classe, mais moi je prétexte toujours quand je suis en retard la perte d'une grand-mère.
Mais vous pouvez pas le faire à chaque fois.
Si. Oh, je vous assure, ma copine est encore très touchée ce week-end que je perde ma 9e grand-mère en 3 mois. Ça passe.
C'est les familles recomposées, ça.
C'est ça.
Christine.
Moi c'est facile quand je suis en retard, c'est toujours la faute de ma fille. Pardon, ma fille a balancé mon iPhone dans les toilettes. Pardon, ma fille a étalé de la glu sur le chat. Pardon, ma fille a confondu son père avec un punching ball. À la différence près que tout ça, c'est pas des excuses. Hein. Tout ça, c'est vrai.
Ben H, c'est pas la grande forme ce matin, qu'est-ce qui se passe ?
Non, Anne, c'est vrai que c'est pas la grande forme. Je suis pas aussi dépressif que Nathalie Loiseau, enfin c'est un sondage, mais j'ai pas le gros moral quoi. Vous le savez, hein, je suis pas le genre de chroniqueur à parler de la pluie et du beau temps, hein. J'aime m'attaquer à des sujets sensibles, des sujets de fond, au plus près de l'actu. Mais quel temps de chien quand même, hein, on a en ce moment. Et moi la météo a un effet direct sur mon moral. Il fait beau, j'ai le sourire, il pleut, je fais la gueule. Hein. Autant vous dire qu'en ce moment, je passe des semaines de schizophrène. Lundi, quelques éclaircies, je suis Miss France, mardi, il flotte, je suis Benalla. Au mois de mai, je suis programmé pour passer mes dimanches à faire des barbecues au soleil, pas devant Netflix sous un plaid quoi. Dimanche, le ciel, c'était 50 nuances de gris et mon moral, c'était ambiance la mort de Bambi. Pas cool. Mais d'où vient toute cette pluie en plein cœur du printemps, hein ? Certains parlent du dérèglement climatique, les températures de juin avec le climat de mars. Hein, on dit que bientôt, nos enfants qui seront en juillet feront de Noël en tongs. Une thèse forcément à prendre en compte. Mais pour expliquer toute cette pluie, je pose la question ici ce matin, est-ce que l'Eurovision de samedi soir n'y serait pas aussi un peu pour quelque chose ? Je suis désolé, hein, mais si Chantifo amène la pluie, la prestation de Madonna lors du concours annonce clairement un déluge de fin du monde. Hein, si ça se trouve, pour l'Arche de Noé, en fait, tout a commencé par une chanson de Madonna. Hein, j'ai regardé sa date de naissance, tout concorde. Hein, avec la pluie, encore, c'est vrai, mais avec les élections européennes aussi. Hein, les sondages en ce début de semaine, c'est comme les prévisions météo. On aspire tous un rayon de soleil, mais le truc s'annonce orageux. Hein, le Rassemblement National est en tête des sondages, et ça, potentiellement, c'est pire qu'une chanson ratée par une vieille pop star évadée d'un EHPAD. Alors oui, ce matin, tout comme la météo, mon humeur est maussade. En attendant le soleil, le vrai, j'attends qu'une seule chose, c'est retourner sous mon plaid.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Vous êtes dur avec Madonna. Elle a eu sa voix un petit peu dérapée.
Vous avez entendu ?
Vous l'avez entendu ?
Oui, mais c'est
triste, la chute d'une idole comme ça.
Bah, c'est un petit accident. Peut-être
qu'ils avaient mal réglé le micro.
Oui,
elle a été payée 1,5 million de dollars pour faire ça.
Ah, en tout cas, le contrat était bien réglé.
Voici des phrases qu'on dit quand on regarde les stars monter les marches à Cannes.
Un jour, Laurent, j'en suis sûr, tu finiras par monter les marches.
Merci Ben, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Bah, on n'est pas à l'abri qu'un jour, l'ascenseur tombe en panne.
Moi, c'est mon rêve de monter les marches du Festival de Cannes.
Eh bah, dis-toi qu'à défaut, t'es palme d'or au Festival des Connes.
C'est au personnage qui a été écrit.
Mais oui, c'est
moi,
le personnage.
On continue sur les phrases qu'on entend en regardant les gens monter les marches à Cannes.
Oh chérie, regarde, c'est Désirless, la chanteuse de Voyage Voyage. C'est fou, qu'est-ce qu'elle fait là?
Ah non, ça c'est Pedro Almodovar.
Je trouve ça un peu vieillot, la montée des marches du Festival de Cannes.
Ah, pourquoi tu dis ça?
Bah, depuis que ça existe, ils auraient quand même pu mettre un escalator.
Oh là là, regarde là, c'est le ministre de la Culture.
Ouah, t'as l'œil, comment tu fais pour le reconnaître?
Bah, c'est facile, c'est le seul qui est pas connu.
Pendant la montée des marches, on voit bien que certains sont tendus, hein, pas loin de craquer.
Le stress?
Non, les liftings.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Laurent Barra, Jean-Philippe Zini, Christine Bérou et notre invitée, l'imitatrice et humoriste Anaïs Petit pour son One Woman Show Addiction le 23 mai au théâtre de 10h à Paris.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Anne Roumanoff et son équipe. Anne qui reçoit dans un instant l'humoriste Anaïs Petit, c'est juste après Mark Ronson. Sur Europe 1, c'était Mark Ronson avec Anne Roumanoff.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bisini, Benach, Christine Bérou, Laurent Barra. Et notre première invitée qui est imitatrice et comédienne. Elle sera jeudi au théâtre de 10h à Paris avec son spectacle Addiction, dans lequel elle a imaginé quelles pourraient être les addictions de personnalités comme Vanessa Paradis, Louane ou Geneviève de Fontenay, mais aussi des addicts anonymes comme une DRH accro au malheur des autres. Vous allez vite devenir addict à son talent. Applaudissements pour Anaïs Petit. Ouais. Bonjour. Bonjour Anaïs Petit. Alors parlez-nous de ce spectacle que vous allez jouer jeudi 23 mai au théâtre de 10h à Paris.
Alors c'est un spectacle qui mêle donc sketch, imitation et chanson. Et comme vous l'avez dit, effectivement, j'imagine à la fois les addictions de quelques stars et puis j'ai inventé des personnages comme une maman accro à la chirurgie esthétique, une DRH accro au malheur des autres, une mamie... un peu sex addict. Et voilà, et plein
une mamie sex addict.
Ah ouais. Ouais. C'est beau d'avoir rendu hommage à Anne Roumanoff.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Et dans votre spectacle, vous dites, Anaïs Petit, que vous êtes sûre de ne jamais devenir accro à l'alcool?
Oui, parce qu'en fait, je ne tiens pas l'alcool. Pourtant, je suis ch'ti. Comme quoi. Et en fait, à chaque étape de l'ivresse, c'est comme si je devenais quelqu'un d'autre. Donc, c'est très angoissant. Par exemple, au bout d'un ou deux verres, je deviens un peu gaffeuse, comme Catherine Froh. Oh, quand même ça a l'air chiant cette soirée. Heureusement que j'ai mis de la bonne musique. Bonjour monsieur. Vous êtes le père du défunt. On n'est pas à l'anniversaire des Berthier. Oh, c'est la porte à côté, la gourde. Enfin, je me disais aussi, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un de complètement raide dès le début de la soirée.
Anaïs Petit, dans le spectacle, vous imitez plusieurs personnalités comme Vanessa Paradis, Véronique Sanson, Marina Foïs, Juliette Armanet, Sophie Marceau, Monica Bellucci, Céline Dion, Louane et bien d'autres. Justement, Louane, par exemple, elle est accro à quoi?
Alors, Louane, elle est kleptomane. Alors, j'invente rien, elle le dit elle-même quand elle chante. Je n'emprunte pas, je vole. Comprenez bien, je vole. De la roue des bagnoles, je vole.
Vous dites, Anaïs Petit, vous êtes originaire d'où dans le Nord?
Je suis née à Arras.
Et vous dites, quand vous êtes arrivée à Paris, c'était compliqué parce que vous étiez toute seule, vous n'aviez pas d'amis parisiens, vous n'aviez pas de réseau. Comment ça s'est passé?
J'ai fait une école de théâtre, l'école Claude Mathieu. Et puis après, j'ai commencé à faire des sketchs. Donc, je voyais que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai commencé les scènes ouvertes, le field, les afters du rire, le chinchman, cabaret la main au panier. Puis petit à petit, j'ai construit mon one-man. Après, c'est comme beaucoup d'humoristes, on fait les festivals. Et puis,
vous avez gagné pas mal de prix dans des festivals, Anaïs Petit?
Ouais. Un festival de Rocancourt, j'ai fait Juste pour rire aussi à Montréal. J'ai fait Montreux. Enfin, oui, c'est vrai.
Vous dites que vous avez eu beaucoup de mal à rentrer au Guignol de l'info.
Ouais.
Et quand vous êtes rentrée, en fait, l'émission s'est arrêtée.
J'ai mis 8 ans. J'ai envoyé ma première démo en 2010. Ah, voilà.
Vous avez la poisse, c'est gentil d'être venu nous voir.
J'espère que l'émission. Et pourtant, quand j'étais sur Europe 1, je travaillais quand même avec le producteur des Guignols. Mais il n'y avait pas de place. Enfin, y avait... Le problème avec les voix féminines, c'est qu'il y en a moins que les voix d'hommes. C'est pour ça que je.
Il y avait déjà Sandrine.
Alexis, il n'y avait pas assez de voix de femme pour.
Et au bout de 8 ans, il vous accepte.
Au bout de 8 ans, il m'accepte. J'ai fait Laetitia Hallyday et puis paf, l'émission s'arrête.
Comment ça donne Laetitia Hallyday, Anaïs Petit?
Alors Laetitia, elle parle un peu comme ça, Voilà. Bonjour.
Salut là, tiens.
Mon amour,
je suis à côté de toi. Je pense beaucoup à toi. Oh, je peux
pas. Oh, Laurent Barra, vous a demandé quelque chose?
Absolument rien. Mais si vous ne mettez pas en avant, jamais je me. Voilà.
Ils l'ont pris au Guignol 3 mois après.
C'est ça. Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Anaïs Petit, venue nous parler de son spectacle Addiction, qui sera le jeudi 23 mai à 20h au théâtre de 10h à Paris. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bisini, Benach, Christine Bérou, Laurent Barra, qui ne sait plus quoi faire pour se placer.
Pour se placer, juste pour qu'il y ait un peu de gentillesse envers lui, mais bon, vous savez ce que c'est.
Et Anaïs Petit, notre invitée, qui sera au théâtre de 10h le jeudi 23 mai avec son spectacle Addiction. Ouais. C'est dur de s'imposer comme imitatrice, Anaïs Petit?
Alors, uniquement comme imitatrice, oui. Il y a moins de voix de femmes que de voix d'hommes, donc on est très vite limitée. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie juste de, qu'on me colle l'étiquette imitatrice, mais pour moi, c'est juste une facette de ce que je fais dans le spectacle. Je suis aussi comédienne, chanteuse, je m'accompagne au piano, je fais... Enfin, voilà. Et oui, je pense que si on voulait être uniquement imitatrice, ouais, c'est un peu compliqué de ne faire que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas... J'ai pas envie de me limiter à ça, quoi.
Laurent Barra, qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer, Anaïs Petit.
Ouais. Oui, j'ai remarqué.
Va vous parler des addictions.
Anaïs Petit, votre spectacle s'appelle Addiction. L'addiction, plus communément appelée la dépendance, ce mal dont nous sommes tous ou presque tous victimes, que l'on soit célèbre ou pas. Et c'est ce que vous démontrez dans votre spectacle, en parlant de façon drôle et parfois même touchante, des addictions qui minent la vie de monsieur et madame tout le monde, mais aussi de celles qui gangrènent l'univers du show business, que ce soit la chirurgie esthétique ou encore plus grave, la drogue. C'est d'ailleurs ces addictions sournoises qui ont effrayé ma mère quand j'ai commencé à fréquenter le milieu du spectacle. D'ailleurs, si elle nous écoute ce matin, je tenais à la rassurer en lui disant voilà, cher Mamou, ne t'inquiète pas, à part Ben H et sa célèbre réplique matinale.
Putain, on est quel jour déjà?
C'est vrai, on est quel jour?
Je n'ai rencontré que des personnes saines de corps et d'esprit, même si certaines d'entre elles sont victimes de dépendance. Sache qu'elles mettent tout en œuvre pour s'en sortir, comme notre chère Anne Roumanoff, que j'ai appris à connaître et dont je salue la force de caractère. Oui, oui. Et elle, qui après une idylle faite de haut et de bas avec à peu près tout ce qui peut se faire en matière de produits chocolaté, commence aujourd'hui tous ses repas par cette question qui peut paraître surprenante au début. Combien ? Eh oui, en bonne Wet-Watcherienne, Anne et Christine pèsent tous leurs aliments. Wet-Watcher ayant établi un barème alimentaire. Blanc d'œuf, 0 point. Brownie chocolaté, 3,5. Saucisse de Francfort, 5. Ou encore l'île flottante, quant à elle, cotée à 2,5 points. Aucune moquerie de ma part, Anne, bien évidemment.
Que en plus, tu dis n'importe quoi dans les points, parce qu'une île flottante, c'est beaucoup plus.
Continuez à me tendre la main, Anne. Aucune moquerie, vraiment, que d'admiration. Et moi, personnellement, je n'ai pas d'addiction. Comme tout le monde, je m'endors péniblement avec la lumière bleutée de mon ordinateur devant une série dont je n'arriverai jamais à terminer, l'épisode 3. Je me réveille la nuit en consultant mon portable, Facebook, Twitter, Instagram et même Tinder. Je consomme des biscuits diététiques et je comprends mieux d'ailleurs pourquoi il existe une marque de produits diététiques qui s'appelle Gerblé. Voilà. Bah, lequel d'entre vous s'est déjà réveillé un matin en disant « j'ai envie de Gerblé » Bah, personne. Parfois même, quand je fais quelques écarts alimentaires et j'entends, comme un ange gardien sur mon épaule, la voix d'Anne me faire ce ton, ce trop proche, combien ? Je n'ai pas d'addiction, si peut-être une seule. Bosser avec vous, avec vous tous. Car en un an, vous avez été bien plus que des collègues de boulot. J'irai même plus loin, je dirais que vous êtes devenus dépendants.
Oh. Oh, bah. J'ai rien compris.
C'est un compliment en tout cas.
D'accord. Attends, je pense que vous comptiez le virer aujourd'hui.
C'est pour ça que j'ai fait une fin.
Ça va être gênant tout à l'heure.
Anaïs Petit, donc il y a ce spectacle au théâtre de 10h le jeudi 23 mai. Quels sont vos autres projets ?
Alors après, le spectacle repart en tournée et puis j'ai d'autres projets. Alors, je finis d'écrire mon premier court-métrage. Puis voilà, j'ai différents projets en écriture. C'est vrai que je vais rester avec un pied dans le One Man Show, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, notamment plus jouer la comédie, voilà, à l'image, des choses comme ça.
Eh ben, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci Anaïs Petit d'être passée
Merci
nous voir.
Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
On rappelle votre spectacle Addiction le jeudi 23 mai au théâtre de 10h à Paris. Nous, on se retrouve dans quelques instants et c'est Marc Lévy, l'auteur français le plus vendu au monde, qui sera notre invité.
11h, 12h30. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, ouais, Ben H, Christine Mérou, Laurent Barra et notre invité qui est l'auteur français le plus lu dans le monde depuis qu'il s'est demandé et si c'était vrai. Ses livres ont été traduits en 49 langues et publiés à plus de 40 millions d'exemplaires. Adapté au cinéma par Steven Spielberg, il vit depuis entre New York et Paris. Espérons qu'il se soit remis de son décalage horaire pour nous parler aujourd'hui de son nouveau livre Ghost in Love, un roman. Le très populaire Marc Lévy est avec nous ce matin. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour Anne.
Alors, c'est incroyable quand même, l'auteur français le plus lu au monde.
Oui.
Et alors, vous le vivez comment ? Vous êtes habitué maintenant ou ça vous étonne toujours ?
Non, ça m'étonne, mais en même temps, comment vous dire... Oui, c'est très réjouissant, ça m'étonne beaucoup, et en même temps, on ne s'en rend pas compte. Enfin,
vous êtes très humble, en fait. Vous pourriez vous la péter beaucoup plus. Ou alors c'est... Une fausse modestie ou...
Non, c'est pas ça, mais enfin, Je veux dire que, enfin oui, j'amène le matin mon fils à l'école et je me... Ouais.
En fait, les lecteurs, vous ne les voyez pas concrètement, c'est ça que vous voulez dire en fait.
Oui, je veux dire que quand un chanteur est chanteur devant 30 000 personnes sur une scène...
Vous ne comptez pas faire le Stade de France, vous?
Non. C'est un bon match.
Et puis peut-être que le fait que vous viviez aussi à l'étranger, ça fait que vous...
Non, mais même, je crois que c'est... comment vous dire? Un metteur en scène peut se glisser dans une salle de 300 ou 600 spectateurs et se rendre compte de ce que produit son travail. Mais oui. C'est un auteur.
Vous, quand vous touchez les droits d'auteur, vous vous rendez compte?
Oui, oui. Mais là, ça. Oui, oui, bien sûr.
Il a changé de visage. Mais encore...
Non, non. Mais
il avait le visage fermé. T'as dit droit d'auteur.
Mais oui.
Ce que je veux dire, c'est que... rappel où.
Non, si un auteur suivait un lecteur chez lui et se planquait derrière son canapé pour voir l'effet que ça fait.
Mais on appellerait la police surtout.
Non, mais en fait, si vous voulez voir des gens lire votre livre dans le métro, venez dans le métro. En fait, ils sont tous là et c'est incroyable.
Mais
ou sur les plages.
Vous savez que moi, ça m'est arrivé dans un train de voir. J'étais dans un train et je vois une main comme ça. J'étais assis et quelqu'un passe dans le couloir. Et donc, à hauteur d'yeux, je vois mon bouquin. Et je lève les yeux. Et c'était une copine de classe.
Ah ouais.
Et donc, je l'appelle, que je n'avais pas vu depuis un certain nombre d'années, maintenant, je ne peux plus dire. Et alors, elle me reconnaît. Elle me dit « Ah, Marc, comment ça va ?» Elle s'assied deux secondes parce que le fauteuil en face de moi était libre. Elle pose le bouquin sur la table comme ça. Et elle me dit « Mais alors, qu'est-ce que t'es devenu ?» Je vous jure, c'est vrai. Et je lui dis
j'écris des livres.
J'écris. Ah bon, c'est génial. Et t'écris quoi? Et j'ai rien dit. Hein. Je dis des livres, mais ça n'a pas d'importance. Et après, non, j'ai rien dit. Elle m'a dit, il faut que je te laisse. Il y a mon mari et mes enfants dans le wagon d'à côté. Et elle est partie.
Incroyable. Et vous n'avez pas désamorcé?
Ben non, c'était plus mignon comme ça. Mais c'est pour vous dire que. Voilà, il n'y a pas matière à se la péter, c'est que des livres en même temps. Ah oui, non, moi, je suis plus impressionné, ça va paraître idiot, il y a une question qui revient tout le temps, on me dit, mais comment vous faites pour écrire un livre par an? Et moi, je dis, par exemple, quand je vois une infirmière, je me dis, ou une aide-soignante, je me dis, mais comment vous faites pour aller tous les matins à l'hôpital et retrouver ce jus et vous occuper toute la journée de gens malades? Je trouve que ce n'est pas non plus... il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Quoi.
Donc, il ne faut pas mettre les écrivains sur un piédestal, Marc Lévy?
Je trouve que... Enfin, moi, je l'ai fait personnellement. Évidemment, il y a des livres dans la vie qui m'ont... Il y a deux ans, j'ai croisé dans un hôtel le fils de Romain Gary et j'avais la main moite. Mais ça, ce sont des rapports, comment vous dire, émotionnels. Il y a des gens qui vous ont touché dans la vie, je peux très bien comprendre. Mais cette sacralisation du métier d'écrivain, je trouve que les métiers, c'est une chaîne de métiers. Et il y a des métiers qui sont bien plus importants que le mien. Et...
En même temps, vous avez été aussi très attaqué par la critique, très jalousé aussi par les autres auteurs. Parce que
oui, mais ça, c'est...
Il y en a qui s'étranglent de votre succès, Marc.
Oui, mais ça, je dirais à la rigueur, ça, c'est plutôt réconfortant et jouissif. C'est pas le...
C'est la rançon du succès.
Ça, ouais. Oui, ça, bon, on ne va pas s'arrêter.
Et vous l'avez vécu comment, ces critiques? Vous vous en foutez? Ou ça vous atteint? Ou
non, moi,
Non,
moi, j'étais très reconnaissant, en fait. Très, très, très reconnaissant. En fait, pour deux raisons, parce que, comment vous dire, y avait deux raisons. Quand la critique était fondée et juste, finalement, c'est quelqu'un qui vous rend un énorme service, parce que, justement, c'est une leçon d'humilité, et puis vous avez... Vous vous remettez en question, vous réfléchissez, vous dites tiens pourquoi. Bon, quand la critique est, vous voyez, très très méchante. Moi, il y a une année, je ne donnerai pas de nom. Il y en avait un tous les ans. Il faisait deux pages pour dire du mal, et je me disais mais c'est extraordinaire. Cet homme tous les ans me consacre tout un week-end, et moi jamais. Vous voyez, ça va. Tu m'aurais dit.
Vous l'avez pas rencontré, cet homme?
Si, je l'ai croisé plusieurs fois.
Alors,
vous
avez dit quoi?
J'ai dit bonjour.
Et alors?
Très poliment. Il était un peu gêné, évidemment. Mais moi, et d'ailleurs, un jour, dans une émission, j'ai donné sans m'en rendre compte, j'ai donné son nom en disant mais moi, ça me touche beaucoup, ce type. Tous les ans, j'imagine ce type qui.
Allez, on s'y remet.
Il est en train de réfléchir. Il écrit,
comment je vais le courir cette année?
Et moi, je m'en fous complètement. Donc je me dis, jamais je n'irai passer deux jours. Mais blague à part, voilà.
Et vous avez aussi, parce que votre père était éditeur, et il critiquait vos livres aussi. Il a joué un rôle très important. Parce qu'il
m'aidait. Enfin, comment vous dire,
vous lui faisiez lire vos manuscrits, les annotait. Et...
Bien sûr.
Alors, Marc Lévy, ce livre, sur le quatrième de couverture, on peut lire cette question. Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher? Ça vous est déjà arrivé d'être contacté par un fantôme? Marc Lévy, c'était avant ou après que les hommes en blanc viennent vous chercher? Comment ça s'est passé?
Forcément avant. Parce que après, j'aurais pas pu l'écrire.
Et alors, du coup, pour les droits d'auteur, vous allez payer l'impôt sur le revenant ?
Oh, c'est magnifique, sublime, bravo, bravo.
On va s'arrêter là.
C'est un métier.
Un énorme. C'est sublime.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Marc Lévy. Il veut nous parler de son livre Ghost in Love, un roman qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Bérou, Laurent Barra et notre invité Marc Lévy. Vous nous parlez de son dernier roman Ghost in Love, un roman qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Donc dans ce livre, alors on va pas tout raconter parce que
La fin. Allez, vas-y.
Mais déjà dans votre premier livre, il y avait un fantôme, donc vous avez une fascination pour les fantômes, sérieusement.
Non, alors 2 sur 20, c'est pas une fascination, hein. Parce qu'il y avait un livre en tout, mais c'était pas un fantôme dans le premier. Dans le premier, l'héroïne de Si c'était vrai, elle était très en vie. C'était une femme qui était...
dans le coma.
Oui, qui sortait de son corps. Et d'ailleurs, tout le propos du premier roman, c'était assez avant-gardiste sur le mouvement MeToo. C'était qu'on voit une femme pour ce qu'elle est, pas pour son apparence. C'était toute la thématique du premier roman. Je vous fais remarquer ça, parce que quand même, c'est 17 ans avant le mouvement MeToo. Et il y a un moment, il faut...
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 17 ans hein
justement.
Faut pas se planter, attention.
Il y a l'heure du revenant. C'est-à-dire qu'on fréquentera régulièrement des fantômes sans être gêné. Non, voilà. Donc, c'était pas un fantôme. Là, j'avais envie d'imaginer... c'est un livre... comment vous dire ? C'est un livre sur le doux et dur métier de parent. Et en même temps, sur cette chose incroyable et folle qui nous arrive dans la vie, c'est que pendant une partie de notre vie, on est les enfants de nos parents. Et à un moment donné, on devient les parents de nos enfants. Et vous voyez, à l'adolescence, on a plein de reproches à faire à nos parents. Et puis quand on devient parents nous-mêmes, on fait cette découverte assez hallucinante qu'avant d'être nos parents, ce sont des hommes et des femmes comme nous, avec leurs points forts et leurs points faibles. Et donc, c'est l'histoire d'un pianiste concertiste qui est un type qui a bien réussi dans la vie mais pas encore très bien réussi sa vie et qui voit arriver le fantôme de son père et qui va avoir quelques jours pour poursuivre une conversation avec son père sur leur rapport père-fils qui d'ailleurs aurait pu c'est vraiment je dirais sur ça aurait pu être une mère et sa fille ou une mère et son fils Le lien père-fils n'est pas un lien finalement plus singulier que le lien avec nos parents, mais c'est une vraie conversation sur cette fichue pudeur qui fait qu'il y a une quantité de choses extrêmement importantes qu'on ne se dit pas entre parents et enfants. Et puis c'est un livre qui démarre sur cette question où Thomas, enfant, dit à son père, dit papa, c'est quoi être un père ?
Alors vous dédiez justement ce livre à votre père décédé il y a 5 ans. Vous dites la magie de l'écriture, c'est de pouvoir à un moment coucher sur papier des émotions, des mots qu'on n'a pas su dire à ceux qu'on aime et qui ne sont plus là.
Oui, ou qui sont encore là d'ailleurs. Moi, il m'est arrivé dans les livres de glisser 2-3 trucs à ma femme, comme ça, dans l'espoir qu'elle les lise et qu'elle les trouve.
Elle les a pas trouvés. Vous avez souligné au Stabilo Boss.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, bien avant que je la rencontre, vous voyez, de manière plus générale, de lancer des appels. Mais bien sûr, il y a aussi d'ailleurs des choses, il y a énormément de choses que j'ai écrites dans ce roman en me disant, tiens, peut-être qu'un jour, mes enfants les liront.
À 39 ans, votre premier roman, et depuis, ça ne s'est pas arrêté.
Non.
Et pourquoi attendre 39 ans ? Vous aviez à 17 ans, vous avez écrit un premier livre, vous l'avez fait lire à votre père, il vous a dit que c'était pas très bien.
Il m'avait dit deux choses en fait. Il m'avait dit, écoute, c'est pas publiable, mais ce qui est bien, c'est que tu as écrit 330 pages. Et en fait, bien sûr, comme j'avais 17 ans, je n'ai entendu que la première partie de la phrase, c'est-à-dire ça n'est pas publiable. Et donc j'ai arrêté. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie du propos du roman, qui est ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas de ce que nos parents nous disent.
Vous avez aussi écrit quelques chansons, Marc Lévy, notamment pour Grégory Lemarchal. Vous dites que c'est une rencontre qui a marqué votre vie.
Oui, il y en a eu deux. Il y a eu il y a deux rencontres qui ont dans ce milieu-là, qui ont été très marquantes, qui ont été lui et puis Johnny Hallyday. Alors Grégory, c'était un garçon, c'était un jeune homme extrêmement impressionnant parce que il y avait un optimisme, une force de vie, une générosité, une candeur et une envie, un appétit de vie chez lui qui était absolument
incroyable.
Incroyable et puis émouvant et en même temps galvanisant parce que, comment vous dire, à son contact, on se sentait tout petit et tellement il rayonnait. Il y avait un rayonnement. Il y a des gens comme ça que vous croisez dans la vie qui sont. Tout à l'heure, vous parliez de se la péter. Bon, moi, les gens qui se la pètent comme ça m'ont jamais impressionné. Plutôt, je me suis toujours plutôt ennuyé en leur compagnie.
Et Johnny Hallyday, comment ça s'est passé à la rencontre, Marc Lévy ?
Paris Match m'avait envoyé l'interviewer. Et Et c'est, en fait, c'est vachement impressionnant d'aller interviewer Johnny Hallyday, d'abord parce qu'on se doute qu'il n'aime pas ça, ensuite parce qu'il a eu 3000 interviews dans sa vie, qu'on n'est pas le premier. J'avais passé 11 heures dans l'avion, j'avais lu 900 pages de toutes les interviews que Johnny avait données, et je m'étais fait la promesse de ne pas l'enquiquiner, lui reposer une seule fois une question qu'on lui avait déjà posée, bref. Mais ce qui m'a le plus fasciné chez lui, c'est sa gentillesse. Qui n'était pas du tout une gentillesse feinte, vous voyez, ou la gentillesse du type qui veut passer, parce que lui, il n'en avait vraiment rien à voir. Oui, plus naturel, vous pouvez. Mais la gentillesse, c'était incroyable, la bienveillance. Et puis en même temps, l'humour, il était extrêmement drôle. À un moment, toujours pendant l'interview, ça l'ennuyait, il me l'avait dit dès le départ, mais bon, il, très généreux, on commence à parler. Voilà, on parle de gens qu'il a aimés, donc du coup, il se sent plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand on est pudique, on aime mieux parler
des
autres que de parler de soi-même. Et puis, à un moment, il me dit viens, viens. Et puis, on sort par une petite porte dérobée, et il me demande si j'ai une cigarette, parce qu'il a arrêté de fumer, mais il fume en cachette, et Laetitia ne le sait pas. Alors, je lui donne une cigarette, et il s'assied comme ça sur le capot de sa voiture, et il fume la cigarette, et il me dit tu dis rien. Et moi, je relève les yeux comme ça. Et droit dans l'axe, derrière le grillage, il y a 60 paparazzi avec des appareils photo. Et donc je lui dis, non, Johnny, mais peut-être quand même que... Et lui, supernaturellement, il se lève avec sa... Il va les voir tous et il leur dit, vous dites rien.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Marc Lévy, venu nous parler de son dernier roman Ghost in Love, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Isigny, Ben H, Christine Béroux, Laurent Barra et notre invité Marc Lévy. Alors vous habitez à New York, Marc Lévy ?
Je vis, oui.
Et vous êtes amoureux et tout se passe bien. Et c'est beau de vivre une belle histoire d'amour comme ça.
Mais oui, enfin, vous savez, le bonheur du quotidien, ça se construit aussi. Ça, c'est pas.
Ça tombe pas tout cuit.
Ça tombe pas tout cuit, ça se travaille. C'est aussi. Mais d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le roman, puisque c'est un roman qui tourne autour. Enfin, qui, dans l'histoire, tourne aussi beaucoup autour de ça, autour de l'amour vécu, de l'amour rêvé, et de la façon dont. De la difficulté à rester un homme et une femme et de pas devenir simplement et de pas rêver, voyez, de ne pas se transformer uniquement entre
père et mère. Et l'amour que vous vivez, par exemple, vous l'aviez rêvé avant de le vivre, Marc Lévy?
Non, je crois pas. Enfin, j'entends le sens de votre question. J'ai toujours rêvé. Il y a des questions de nature. Il y a des gens qui sont très heureux en étant seuls. Et moi, je respecte ça. Moi, je me suis toujours enquiquiné. Enfin, c'est-à-dire pas enquiquiné. J'ai fait un métier de solitaire. Hein. C'est incroyable le nombre de mois que l'on passe tout seul quand on fait ce métier. Parce que par définition, autant un chanteur travaille avec une équipe, un acteur.
Vous écrivez combien d'heures par jour, Marc Lévy?
Moi, j'écris, on va dire, à peu près 4 à 5 mois par an et en moyenne 10 à 12 heures par jour. Allez, donc, c'est... vous voyez, 20 années d'écriture, c'est à peu près 8 années vraiment seul sur une île déserte. Hein,
Mais là, vous êtes dans une famille, vous avez des enfants en bas âge, donc ils viennent toquer à votre porte, ils n'ont pas le droit, comment ça se passe?
Ah, si.
Ils viennent toquer?
Oui, oui. Mais non, mais il toque même pas.
Ah oui.
Je peux vous dire que ma fille qui a 3 ans, elle toque pas, elle pousse et j'entends, elle monte les marches. Hop, hop, hop,
vous écrivez dans le silence ou vous avez besoin qu'il y ait justement de la vie pour écrire?
En fait, quand vous écrivez, vous êtes dans une bulle. Donc, c'est à la fois très perméable et très imperméable. Ma fille, elle arrive dans mon bureau et d'ailleurs, c'était déjà le cas avec l'aîné. Mais ma fille, elle arrive dans mon bureau et puis elle s'installe et elle commence à jouer. De temps en temps, elle vient me voir, elle me dit « Bon, allez, on joue ouais. !» Bon, bah oui, on joue.
Ah,
voilà,
oui.
Mais ça, c'est... Non, non, c'est un métier où on... Comment dire, le bruit de la ville, mais vous dérange pas, le bruit de la vie. J'ai jamais voulu, surtout, enfin, ça très triste, vous voyez, le côté sacré, on n'entre pas dans le bureau de papa. Ça va, je suis pas chirurgien, je suis pas en train d'opérer. Mmh. Mais j'écris beaucoup la nuit. Dès que la maison dort, il y a une grande partie de la nuit. C'est un métier... comment vous dire c'est un métier très solitaire où pendant des mois et des mois, on est face à sa copie, face à ses personnages. Alors en même temps, les personnages rentrent dans votre vie, on n'est plus complètement seul. Et j'ai complètement oublié quelle était votre question.
C'est pas grave.
Il n'y en avait pas. On est d'accord.
Ben H a des choses à... Non. Ah, c'est pas lui.
C'est
Jean-Philippe Vizini a des choses à vous dire, Marc Lévy.
Oui, parce que nous aussi, on a essayé de rentrer en contact avec des fantômes. Hier soir, avec les enfants, on a essayé de faire une séance de spiritisme. Alors on a allumé les bougies, puis on y allait, on a dit... Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Et là, pour de vrai, on voit une vieille dame traverser le salon en robe blanche. Les enfants se sont mis à crier. Ah ! On a rallumé la lumière. C'était ma femme, elle venait de se démaquiller. Elle sortait de la salle de bain, la pauvre. Bon, bah. Du coup, on l'a dit, allez, viens avec nous. On recommence. On est reparti. On éteint la lumière et on répète tous ensemble. On y retourne. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Esprit, est-ce que tu nous entends ? Au bout d'une heure, quelqu'un répond. Oui, je vous entends. Là, c'est la panique. Je demande, mais qui êtes-vous ? Vous êtes un esprit. Il me dit, non, je suis le voisin, j'aimerais bien dormir. Bon, on continue. Dans votre roman, Marc Lévy, vous dites que le personnage principal entend un fantôme pour la première fois en fumant un joint. Du coup, avec ma femme, on est allé porte de Clignancourt acheter de quoi entendre des fantômes. Là, on tombe sur un mec chelou, là, il nous dit « Avec moi, vous n'avez rien à craindre, c'est moi qui fournis tout Paris. » Je dis « Mais il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui dis « Bah, nous, on voudrait un truc assez fort, là, pour entrer en communication avec des fantômes. » Le mec, il me dit « Bah, vas-y, prends ça, tu vas voir, ça, c'est bien, c'est ce que je donne au coiffeur d'Anne Roumanoff. » Je lui dis « Quoi ? Mais ça va pas, c'est beaucoup trop fort !» Alors, si vous le voulez bien, tous ensemble, alors ce qu'on va faire, on va essayer de faire une séance de spiritisme. Vous voulez bien jouer le jeu ?
Ouais.
Faut jouer le jeu, hein, sinon ça marche pas. Hein. Allez, on y va, vous répétez après moi. Esprit, es-tu là ?
Esprit, es-tu là ?
Oui, je suis là ! Oh, ça marche ! Ça marche, alors on va lui parler, on va dire « Esprit, si tu m'entends, peux-tu nous dire pourquoi es-tu rentré en contact avec nous ?»«
Parce que c'est notre projet !»
Je crois qu'on n'a pas réveillé le bon esprit. C'est un peu le problème avec les fantômes, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Sauf avec vous, bien sûr, Marc Lévy, car avec vous, on n'est jamais déçu.
Voilà.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Marc Lévy, qui va nous parler de son dernier roman, Ghost in Love, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Ne bougez pas.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou, Laurent Barra et notre invité Marc Lévy. Il nous parlait de son dernier roman Ghost in Love aux éditions Robert Laffont. Alors Marc Lévy, vous dites dans vos souvenirs, il y a une professeure d'histoire qui a été très importante pour vous. Parce qu'elle vous faisait, elle vous interdisait de prendre des notes, elle fermait les rideaux et elle vous racontait des histoires.
Oui, c'était en sixième et elle était géniale. C'était le premier cours du lundi matin, donc c'est pas le cours où on a le plus envie d'aller. Et à l'époque, je me souviens, au programme, c'était l'Égypte. Et elle rentrait dans la salle de classe comme ça, et elle tirait les rideaux. Enfin, c'était des voiles, mais du coup, la lumière était un peu plus tamisée dans la pièce. Et elle nous interdisait de prendre des notes et elle nous racontait l'Égypte. Et pendant une heure, en fait, elle nous racontait une histoire. Et nous, au lieu de prendre des notes, machin, on était avec, on était avec Cléopâtre, on était avec Pharaon. Et l'exercice, c'était qu'elle nous disait, ce soir, quand vous serez rentré, vous coucherez sur le cahier tout ce dont vous êtes souvenu. Et c'est vrai qu'on racontait le cours du soir. Et en fait, on avait un tel bonheur nous-mêmes à re-raconter ce qu'elle nous avait raconté que on mémorisait 10 fois plus que si on avait appris notre leçon. Et en l'écoutant, personne ne sachait son cours. Je peux vous dire que même avec 38 de fièvre, le seul cours où même malade, on disait à nos parents que tout allait bien, pour rien au monde, on aurait raté le cours de Madame Henry. Et c'était passionnant. Et en l'écoutant, je me rendais compte du pouvoir le pouvoir qu'a le conteur, ce pouvoir extraordinaire et assez bénéfique, finalement, du conteur qui vous embarque dans une histoire et qui vous... Et c'est tout ce que j'ai essayé de faire dans mes romans, en fait. C'est, pendant le temps d'une lecture, pendant quelques heures, de nous faire décrocher de notre réalité, de notre quotidien, et de nous emmener avec des personnages dans des histoires qui de préférence d'ailleurs font du bien.
Je vous présente quelqu'un qui va peut-être vous faire du bien, c'est Christine Béroux.
J'étais pas prête là, j'étais en train de boire ses paroles. Bonjour Marc, alors moi je suis là pour vous proposer un petit instant ludique. J'ai une petite série de questions à vous poser, en partant du principe qu'il existe plusieurs Marc Lévy, autant que vous avez créé de personnages. Je pose la question et ensuite je précise à quel Marc Lévy elle s'adresse. Vous êtes prêts?
Oui.
En ce moment... Calmez-vous. En ce moment, qu'est-ce qui vous fait planer? C'est une question pour Marc Lévitation.
Ah, très fort. Bien sûr. C'est très fort.
Qu'est-ce qui vous fait planer, Marc Lévitation?
Mes enfants.
Aujourd'hui, pour être écrivain, est-ce qu'il faut en avoir dans le pantalon? C'est une question pour Marc Lévis.
Un stylo. Avoir un stylo.
Est-ce que vous avez des tuyaux pour les jeunes auteurs? C'est une question pour Marc Lévier. Et vous n'avez jamais eu envie d'écrire des histoires avec des monstres marins, par exemple? C'est une question pour Marc Léviathan.
Oh, sublime. Si, ça me tente énormément. Tu sais, ça me fait penser à l'interview dans « Quatre mariages, un enterrement ». Tu sais, quand elle demande à Tom Hanks, mais est-ce que vous vous sentez très proche de votre personnage? Non, pas à Tom Hanks, à...
Hugh Grant.
Oui, oui, quand Hugh Grant demande à l'acteur président, mais vous vous sentez très proche de votre personnage parce qu'il n'a pas vu le film, et l'autre dit, non, pas du tout. Ah bon, mais pourquoi? Parce que c'est un extraterrestre cannibale.
Est-ce que vous avez vraiment rencontré une fille aux yeux revolver? C'est une question pour Marc Lavoine. Ah, du coup, je ne sais pas pourquoi je vous la pose. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes sous l'eau ou comme un poisson dans l'eau? C'est une question pour Marc Lévian.
Pour Marc quoi?
Pour Marc Lévian, pardon.
À cause de l'eau des viands.
Marc, est-ce que vous écrirez toute votre vie? C'est une question pour Marc à Lévy à la mort.
Bah, écoute, il répond même plus maintenant. Il fait juste des pouces.
Super. Je suis à côté, j'attends. Ouais.
Pardon, je me sens. Okay.
Ça, c'est vrai qu'il est bienveillant.
Oui.
Non, mais c'est magnifique.
Un autre serait parti, hein, mais lui.
J'ai envie de me taper. Et enfin, en tant qu'auteur, entre autres, de romans d'amour, est-ce que vous pensez qu'il existe une âme sœur pour tout le monde? C'est une question pour Anne Roumanoff. Enfin, c'est une question pour aider Anne Roumanoff. Il n'y a pas de jeu de mots, ne cherchez pas.
Justement, il est peut-être un peu déçu, là. Ça manque de jeu de mots.
Parce qu'on s'y fait à force.
Ouais.
Vous voulez encore une bouteille d'eau?
Ça peut être une question pour Marc Léviter, la question.
Non, mais c'est une question hyper grave, en fait.
Mais c'est bien joué.
C'est pour ça que je prenais mon temps. Moi, je suis sûr que oui.
Marc Lévy, vous avez beaucoup de projets d'adaptation au cinéma, de vos livres, et en série télé aussi, en ce moment.
Oui, il y en a quelques-uns, oui.
Vous écrivez les scénarios ou vous donnez le roman et vous laissez les gens faire? Ou alors vous supervisez après le résultat?
Moi, je suis... à partir du moment où ça rentre en adaptation, je me mets à disposition. Après, il y a un autre volet qui consiste à écrire... des scénarios dits originaux, pas parce que l'histoire est forcément géniale, mais parce que elle n'est pas connectée à un livre. Là, la motivation, c'est de travailler en équipe, justement. C'est de sortir de...
Et ça, vous le faites, d'écrire des scénarios originaux?
Je vais le faire.
Vous allez écrire des scénarios pour un scénario pour le cinéma? Un thriller?
Non, je vais écrire une série.
Une série pour la télé? Pour quelle chaîne?
Je peux pas dire.
Si vous pouvez tout dire ici.
En France ou aux États-Unis?
Vous savez, aujourd'hui...
c'est international, ouais. Pour Netflix.
C'est pour une plateforme, ouais.
Mais... Non, mais même quand vous écrivez pour une chaîne de télé, après, c'est traduit dans d'autres langues.
Bah merci, Marc Lévy.
Europe 1, Anne Roumanoff. L'histoire de la semaine.
Donc, on a une tradition dans cette émission, Marc Lévy. Chaque lundi, on démarre une histoire. Elle a été donc démarrée hier par Iris Mittener. À vous de la poursuivre aujourd'hui.
Première nuit.
Et alors maintenant, vous allez écouter le début de l'histoire inventée par Iris Mittener hier.
Au paradis latin, il y avait une meneuse de revue fraîchement arrivée du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelait Iris.
La première nuit où elle se présenta sur scène, elle a changé à jamais le cours de sa vie après avoir croisé le regard d'un spectateur assis au troisième rang. Wow.
Merci Marc Lévy d'être passé nous voir. On rappelle votre roman Ghost in Love qui vient de sortir chez Robert Laffont. Merci à vous. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous sommes de retour dès demain à 11h sur Europe 1.
Merci.